Radio Okapi. Grande interview.
Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présenté lundi dernier à l'Assemblée nationale l'économie du budget 2020. Évalué à plus de 10 milliards de dollars, ce budget, principalement axé sur le social du peuple congolais, alloue des moyens conséquents pour la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement des bases ainsi que l'accès aux soins de santé pour tous. Pour le Premier ministre, plus de 30% du budget sont destinés à l'amélioration du social des Congolais, avec en tête le budget de l'éducation qui passe de 15% à plus de 20%, avec 11% destinés à la gratuité de l'enseignement. Face aux doutes exprimés par certains députés sur la capacité pour le gouvernement de mobiliser 10 milliards de dollars, le Premier ministre annonce des mesures rigoureuses et des sanctions afin de lui permettre de mobiliser en conséquence ces budgets ambitieux. L'examen de ce projet de loi a débuté deux jours seulement après la présentation par le ministre des Finances du projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2018, préalable et légal pour examiner le budget. Des cas de détournement des fonds et de dépassements budgétaires excessifs ont été dénoncés. Pour en parler, grande interview reçoit dans ce numéro le député national Christian Mwando Simba. Avec lui, nous revenons sur l'analyse du budget, mais aussi de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2018. Produite avec le concours de Kéline Kouté sous la supervision de Pelekipe Lamondo, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Grande interview, c'est parti. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans Grande Interview. Nous recevons dans ce numéro le député national Christian Mwando. Il est de l'opposition. Avec lui, nous analysons sans complaisance les budgets 2020 et la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2018. Christian Mwando, bonjour.
Bonjour.
Quelle analyse faites-vous de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2018?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord clarifier pour les auditeurs, c'est quoi la reddition des comptes? Parce qu'on parle de la reddition des comptes, parfois nos auditeurs ne savent pas de quoi il s'agit. Lorsque, en cours d'année, l'État décide de présenter un budget, comme le budget qu'on vient de voter pour l'exercice 2020, il y a une loi qui sort, qui fixe ce que la nation, le peuple réuni en assemblée, à l'Assemblée nationale, donne comme autorisation au gouvernement d'encaisser et ce qu'il donne comme autorisation de dépenser. Et à la fin de l'année, le gouvernement doit revenir auprès de la représentation nationale pour dire, par rapport à ce qui lui a été autorisé en recettes et en dépenses, qu'est-ce qu'il a pu faire. Donc, c'est l'exercice que nous avons fait au courant de la semaine dernière pour ce qui avait été autorisé en 2018. Et il a été constaté, je crois que j'ai eu à le dénoncer du haut de la tribune, que le gouvernement sortant, le gouvernement Tshibala, n'a tenu aucun compte de ce qui a été voté par l'Assemblée nationale. Et le gouvernement Tshibala s'est caractérisé par une gestion calamiteuse, des détournements massifs des fonds publics. Je pense que lorsqu'on approfondit les calculs, les détournements qu'a fait le gouvernement Tshibala sur les crédits budgétaires dépassent pratiquement les 1 milliard de dollars américains. C'est-à-dire, pour ce qu'on a autorisé, le gouvernement Tshibala n'a pas fait ce qu'on lui a dit, mais a utilisé les moyens de l'État pour faire autre chose de ce qui ne lui a pas été autorisé. Cela est de l'impunité, et si nous continuons comme ça, même le budget qui a été voté ne sera pas appliqué parce qu'il y a l'impunité au niveau des dirigeants politiques.
Effectivement, dans votre intervention au cours du débat général à l'Assemblée nationale, vous aviez dénoncé des détournements de plusieurs millions de dollars. Est-ce que vous avez des preuves d'un tel détournement? Pouvez-vous nous en donner des cas concrets?
Je vais vous donner quelques cas concrets. Hein. Les preuves se trouvent dans les documents que moi je n'ai pas établis, mais qui ont été établis par le ministère des Finances lui-même. Je pense que nous avons, je vais parler d'abord des projets. Il y a 1,6 milliard de dollars qui ont été prévus pour 1,406 projets. Il n'y a que deux projets que le gouvernement Tshibala a exécutés à 100%. Il a payé 1,6 milliard de dollars, donc ça fait 0,1%. Les autres plus de 1100 projets n'ont même pas connu un budget d'exécution. Par contre, lorsque vous examinez le petit matériel de bureau, donc les bics, les papiers, mais le gouvernement Tshibala a dépensé pour cette rubrique-là plus de 247 millions de dollars. Lorsque vous dépensez plus de 247 millions de dollars, alors que les prévisions était seulement de 89 millions de dollars, c'est qu'il y a eu un détournement des crédits de 158 millions de dollars, un détournement des fonds. Parce que cet argent, les 158 millions de dollars, par exemple, sur les fournitures et petits matériels du bureau, c'est cet argent-là qui devait servir à exécuter les projets d'investissement qu'on n'a pas exécutés pour privilégier le petit matériel de bureau. Et ça, je condamne particulièrement le ministère des Finances et le ministère du Budget qui ont considéré pendant la gestion Tshibala que l'argent public était leur argent personnel. Le fonctionnement pour le ministère des Finances était prévu à peu près à 8 500 000 dollars. Le ministère lui-même a autorisé le paiement de 51 millions, mais de la caisse de l'État, il est sorti 61 millions de dollars. C'est-à-dire, il y a un écart entre ce qui a été autorisé au ministère des Finances et ce qui a été payé, un écart de 52 millions de dollars. La même chose pour le ministère du Budget. Il y a un écart de 53 millions de dollars entre ce qui a été prévu et ce qui a... Donc, rien que pour ces deux ministères, vous avez déjà un détournement de 100 millions de dollars pour les deux ministères censés gérer les comptes de l'État. Mais ici, en plus, lorsque vous entrez dans les détails, parce que les détails nous sont donnés par ce même ministère, à quoi sert cet argent? Les détournements. Ça sert à payer les primes, les voyages, ainsi de suite, et les autres petits matériels et fournitures du bureau qui sont en dépassement, y compris dans ce ministère. Ça veut dire, si vous prenez les 247 millions de fournitures de bureau, plus les 100 millions ici, plus ce qui a été payé 4 fois le prix dans les projets, vous êtes à des milliards de dollars américains qui ont été détournés. Vous savez que toute la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa qui est parmi les mieux payées de la République, eh ben avec ses érosions, avec son insalubrité, avec tout ce qu'elle connaît comme problème de route et autres, vous savez combien la ville de Kinshasa a reçu en 2018, en tout et pour tout? 26 millions de dollars. 26 millions de dollars. Comment expliquer que la ville de Kinshasa reçoit moins que le matériel de bureau des ministères ici à Kinshasa? Le Bazouélé n'a eu que 3 millions de dollars sur l'ensemble de l'année. Que voulez-vous que les gouverneurs en province puissent faire comme investissement pour nos populations?
Vous avez été ministre des Finances dans le gouvernement du Grand Katanga sous Moïse Katumbi. Que préconisez-vous pour éviter ces dépassements budgétaires préjudiciables au bon fonctionnement du pays?
Il y a des choses simples. Lorsque le ministre du Budget, qui est le gardien, en fait, de l'exécution de ce que la nation réunie en Assemblée, l'Assemblée nationale, donne comme instruction en matière budgétaire, c'est lorsque le ministre du Budget ne respecte pas ça, il y a des sanctions qui sont prévues. Il faut que ces sanctions soient appliquées. Il faut que l'impunité cesse dans ce pays. Il faut que les dirigeants cesse de croire que les impôts des citoyens sont leurs biens privés dès lors qu'ils deviennent ministres des Finances ou ministres du Budget. Moi-même, j'ai été ministre des Finances, je pense que vous le savez, que j'ai été le premier ministre des Finances provincial qui est venu de lui-même à la Cour des comptes pour déposer la reddition des comptes des provinces, et la Cour des comptes est venue contrôler mes comptes. Et après mon départ, les commissions d'enquête, il y en a eu 22 au niveau du Katanga. Mais la question ici, c'est une question de compréhension de ce que c'est le sens de l'État. Lorsque vous êtes ministre, l'argent de l'État n'est pas votre argent. Si la reddition des comptes n'était pas une obligation pour qu'on puisse recevoir le budget, je crois qu'il n'y aurait pas de reddition de comptes du tout. Je pense qu'avec les changements en cours dans notre pays, il faut qu'on permette les contrôles. Je vais revenir sur un point important aussi. Pour empêcher le contrôle, aujourd'hui, vous avez vu que dans les commissions même de l'Assemblée nationale, les têtes comme la mienne, qui devait présider, selon les accords, la commission des infrastructures pour faire les contrôles de ce qui est prévu et ce qui est dépensé pour le compte des infrastructures et ce qui est fait réellement sur le terrain, nos têtes ont été déclarées indésirables. Et ce sont des choses qui sont inacceptables parce que nous sommes tous fils de ce pays. Si nous voulons que ce pays avance, il faut permettre le contrôle et il faut sanctionner les dirigeants.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro le député national Christian Mwandon Simba. Avec lui, nous parlons du projet de loi des finances pour l'exercice 2020, déclaré recevable mercredi dernier à l'Assemblée nationale et sous examen en commission ECOFIN de cette chambre. Christian Mwando, êtes-vous satisfait d'un budget de 10 milliards de dollars en lieu et place des 7 milliards annoncés précédemment?
Je pense que ce projet de budget de 10 milliards est une avancée positive dans la mesure où notre pays doit quand même apprendre à faire des efforts. On ne doit pas être des minimalistes. Nous, avec le projet qu'on avait avec Moïse Katumbi, nous prévoyons une moyenne de 20 milliards de dollars par an et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, comme je l'ai dit, si on y met du sérieux, on y met de la rigueur. Mais il ne faut pas prononcer un chiffre et puis laisser les mêmes acteurs se comporter de la même manière, comme on dit sur le plan de la science, dans les mêmes circonstances, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc il faut changer les méthodes de gestion, il faut changer les acteurs et il faut y mettre de la rigueur et notamment exploiter les richesses qui ne sont pas exploitées. Notre quote-part sur la protection de l'environnement, il y a des fonds au niveau mondial qui doivent être levés. Il y a le secteur minier qui est pratiquement un domaine réservé. Il faut que le secteur minier puisse être contrôlé, que les pas de porte, les royalties puissent prendre véritablement le chemin du trésor public. Est-ce que le Premier ministre aura la capacité de déboulonner les gens qu'il faut déboulonner dans les secteurs clés qui peuvent lui permettre de générer les recettes? Tout le défi est là, parce que si le Premier ministre n'a pas cette capacité, je crois que ça va être difficile. D'autant plus que aujourd'hui, vous voyez que la prévision est à 10 milliards, mais la réalisation, la projection linéaire par rapport aux 6 premiers mois qui nous ont été remis pour ce budget, l'exécution du budget 2019, nous allons être plus ou moins à 5 milliards de budget réalisé en 2019. Donc, ça veut dire qu'il lui faut au Premier ministre faire un bond de 100% en une année. Je crois que ce n'est pas évident. Il lui faut des mesures efficaces, il faut de la rigueur et il faut du sérieux.
Alors, quels sont les points positifs que vous aviez répertoriés de ces budgets?
Nous avons répertorié d'abord la volonté de lutter contre la corruption. La volonté de lutter contre la corruption ne doit pas être seulement une volonté annoncée. Il faut des mesures strictes par rapport à ça, parce que c'est cette volonté de lutter contre la corruption qui va permettre également aux partenaires qui ont fait des promesses de pouvoir effectivement exécuter. Parce qu'avec la corruption, vous devez savoir que personne ne viendra mettre un seul dollar ici. Il y a les réformes de la justice. Il y a les réformes de la justice. Vous savez que dans notre pays, la grande machine en panne qui empêche tout bon fonctionnement, c'est la justice. Parce que vous avez combien de plaintes pour corruption, combien de plaintes pour détournement, combien de plaintes pour des choses même graves sur le plan politique qui n'ont jamais abouti. Parce que la justice est complètement instrumentalisée. Si vous voulez avoir des investissements, si vous voulez avoir un progrès, si vous voulez avoir du sérieux même dans le travail des hommes, il faut une justice qui marche, une justice efficace. Parce que c'est la justice qui permet de réguler la vie de tous les jours et la vie de la République. Et les réformes de la justice doivent être une avancée positive. Il y a les mesures sociales, bien entendu, notamment en ce qui concerne l'enseignement. Venir à dire que le social ne peut être réalisé que si les recettes précèdent. On ne peut pas faire le social avant d'avoir renfloué les caisses de l'État. Aujourd'hui, il est important que dans notre pays, on fasse d'abord les investissements productifs. 1. Les routes.
je prends ma circonscription électorale de Moba ou de Kalemi, on n'a pas besoin d'aller assister les gens là-bas avec de l'argent ou avec des aides. Si on répare les routes, on leur donne la sécurité, ces gens sont capables de cultiver, de se prendre en charge, de vendre leurs marchandises et ils vont être autonomes.
Maintenant que la loi est sous examen en commission ECOFIN, quels sont les réajustements nécessaires que vous soutenez ?
Je pense que en ce qui concerne les réajustements nécessaires, je crois qu'il faut réajuster encore le budget de la défense nationale, parce que je pense que la défense c'est quelque chose d'important. Nous insistons beaucoup pour que on ne pense pas seulement à l'enseignement, il faut penser à l'armée et à la police. Parce que sans la sécurité, sans une police disciplinée et payée normalement, je crois que rien ne peut véritablement se faire. Je pense que c'est, pour moi, c'est le secteur qui est un peu en reste et qui doit être complètement revalorisé. Les investissements dans le secteur de la défense et de la sécurité est un investissement important.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro le député national Christian Mwando Simba. Avec lui, nous parlons du caractère social du budget 2020. Christian Mwando, plus de 30% de ce budget sont alloués aux secteurs sociaux de base comme la santé et l'éducation. Ou croyez-vous que l'exécution stricte et fidèle de ce budget pourrait améliorer tant soit peu les sociales des Congolais?
Oui, c'est l'exécution de ce budget pourrait améliorer le social des Congolais pour peu que les recettes précèdent. Parce que si aujourd'hui on arrive à un taux d'exécution, parce qu'il y a les prévisions, il y a l'exécution. Si aujourd'hui on arrive à un taux d'exécution de 50%, c'est-à-dire au lieu de produire 10 milliards, véritablement, on n'en produit que 5. Vous comprenez que tout le social qui est prévu là-bas à hauteur plus ou moins de 3 milliards est hypothéqué. Parce qu'il faut payer d'abord les rémunérations, il faut faire quelques investissements. Donc, le social ne peut être assuré que lorsque les recettes précèdent. Donc, à mon avis, l'idée, l'intention est bonne, mais il faut serrer d'abord les recettes parce que jusque-là, je n'ai jamais vu notre pays atteindre 100% des recettes prévues. Donc, on est toujours autour de 60% cette année. L'année passée, on est arrivé plus ou moins à 80% des recettes. Mais sans la réalisation maximale des recettes, il y aura des difficultés. D'autant plus qu'il y a la contrainte de la gratuité de l'enseignement qui va prendre un gros morceau de cet aspect social. Donc, si on n'arrive pas à exécuter les recettes telles que prévues, je crois que la machine va être grippée.
Et quels sont les secteurs que vous estimez budgétivores qu'il faille nécessairement réduire en faveur des secteurs sociaux?
Je pense que d'abord, si on commence par éviter ce qui s'est passé à l'exécution 2018, à se tenir strictement à ce qui a été prévu, c'est-à-dire sans dépassement, parce que nous avons vu, je l'ai démontré dans la reddition des comptes, que ce qui est budgétivore, ce n'est pas les rubriques qui sont prévues, c'est le détournement qui prend le gros. Donc si on jugule déjà les détournements et que on met des règles strictes pour que le ministre des Finances et le ministre du Budget n'exécutent que ce qui est prévu, en ce moment-là, je crois que on va déjà éliminer 80% du problème. Maintenant, il y a le problème, les uns et les autres parlent du train de vie des institutions. Je pense qu'il faut revoir sérieusement le train de vie des institutions, notamment les nombreux ministères où nous avons beaucoup de recettes qui se consomment à la source. Il y a des rétrocessions dans les ministères, il y a des primes exagérées, il y a des ministères comme les finances ou le budget où les gens vivent des primes qui dépassent même les salaires des ministres. Donc il y a tout ça, le train de vie des institutions doit être revu et les détournements doivent être diminués.
Et croyez-vous à la réussite des mesures de la gratuité de l'enseignement primaire avec ces 11% alloués à ce secteur?
Je pense que ces mesures sont prématurées. Ces mesures sont prématurées et les mesures n'ont pas été bien préparées. Il faut, notre pays, on doit apprendre aussi à dire la vérité à la population. C'est une mesure que tout le monde salue, que tout le monde applaudit, mais ne tombons pas dans l'euphorie, parce que on risque de prendre une mesure qui va amener à la paralysie du système éducatif. Aujourd'hui, vous le savez très bien mieux que moi, on nous a dit par les assises de l'enseignement là-bas qu'il y a 2 milliards 800 millions de dollars nécessaires pour assurer la gratuité de l'enseignement. 2 milliards 800 millions de nécessaires. Par rapport au budget de 10 milliards, ça fait à peu près 30%. 30% du budget sans les autres secteurs sociaux, parce que les 30%, c'est y compris les autres secteurs sociaux. Donc, rien que cet enseignement de base pourrait prendre 30%. Les 30% ne sont pas encore dans la caisse. Et la gratuité de l'enseignement ne concerne pas seulement le fait pour les enfants de venir à l'école gratuitement. Il s'agit de payer correctement les enseignants. Il s'agit d'agrandir les salles de classe. Il faut mettre les bancs. Il faut équiper. Il faut faire, en plus de ça, il faut faire fonctionner l'école, c'est-à-dire les cahiers de préparation, les tableaux, les créer, tout ça. Les livres. Bon, maintenant, ici, en une année, en moins d'une année, sans préparation, est-ce qu'on peut véritablement dire que voilà, toute l'éducation de base est gratuite? Je crois que ça pose un problème. Partout aujourd'hui à l'intérieur, il y a un dysfonctionnement, il y a un désordre. Moi, dans ma circonscription électorale, depuis la semaine dernière, partout on a arrêté de donner cours. Il ne faut pas qu'on veuille que les 60 aillent à l'école, mais finalement même les 30 qui étudiaient avant ne savent plus étudier parce que ça devient impossible. Ça, c'est une chose importante. Deuxième chose, la question des salaires des enseignants. Vous avez aujourd'hui des difficultés avec l'Église catholique, on diabolise inutilement l'Église catholique. Les seules écoles qui marchaient quand même tant soit peu, ce sont les écoles des églises, les écoles conventionnées. Pourquoi? Parce que dans ces écoles-là, le maître avait quand même un salaire plus ou moins décent. 500 dollars, 600 dollars, tout ça. Mais ce maître-là, aujourd'hui, vous allez le rabattre à 200 dollars parce qu'il y a gratuité. Est-ce que par rapport aux droits acquis qu'il avait, est-ce que c'est possible? Ça demandait, un, la préparation. Deux, la mise en place graduelle en fonction des capacités financières de l'État. Notamment, le président de la République pouvait dire aujourd'hui, voilà, comme je viens de commencer, pour faire des essais, les tests, premiers tests. Alors, cette année, la première année primaire et la deuxième année primaire seront gratuites. Ok, comme ça, ils rôdent la machine. Ils voient, voilà les faiblesses, voilà les forces, et on commence à corriger pour la troisième et la quatrième année, puisqu'on va y entrer l'année académique ou l'année scolaire suivante. Et après, au bout de 5 ans, ils seraient arrivés à toutes les années, en tout cas de l'éducation de base, conformément à la Constitution. Et ça serait assis en ce moment-là sur des décisions, sur une préparation assez solide que pour être pérennisée. Moi, je crains que la manière dont cette mesure a été prise, si le gouvernement n'a pas l'humilité de revenir sur certains aspects de cette décision, notamment il peut dire que cette année-ci, le gouvernement peut prendre en charge, je ne sais pas, le Minerval et une partie des frais d'intervention des parents, et que l'autre partie, il va y aller graduellement. Parce que il risque d'arriver soit à l'arrêt total de la machine, soit au fait que, comme je l'ai entendu notamment dans le loi là-bas, que certains parents se sont décidés de faire fi de la gratuité parce qu'ils ont envie quand même que leurs enfants étudient. Donc, ils ont dit, bon, nous, la gratuité, c'est bien. Nous payons 300 dollars par trimestre. Nous allons quand même payer 100 dollars pour permettre que les cours continuent. Donc, ça devient des couacs. Il est important, en toute humilité, que tout le monde, que les syndicats se retrouvent avec le gouvernement autour d'une table, que certains parlementaires éventuellement les aident, qu'on négocie, qu'on voit comment mettre graduellement cette gratuité en marche. Et n'oubliez pas que l'enseignement n'est pas un cadre isolé. Il y a les autres qui regardent, il y a les policiers qui regardent, il y a les militaires, il y a tous les autres fonctionnaires regardent. Donc, il risque d'avoir un effet d'entraînement brusque qui va avoir des effets de répercussion sur même la stabilité de la monnaie ou le blocage des institutions.
Vos collègues députés de l'opposition, comme Christophe Lutundula et Délice Sanga, proposent qu'on mette en place un barème uniforme d'un écart, par exemple, de 100% à 10%. Que préconisez-vous très concrètement pour une véritable justice distributive en RDC?
Oui, je pense que ces propositions sont des propositions très valables. Aujourd'hui, le député touche autour de 4 000, le député national touche autour de 4 000 dollars. Il y a certaines provinces où les députés provinciaux touchent autour de 10 000 dollars. Il y a certains ministres, les ministres, je crois, l'année passée touchaient autour de 8 000 dollars. Il faut d'abord, y compris dans les barèmes des politiciens, qu'il y ait une structuration pour savoir qui touche quoi et à quel niveau, de manière à ce qu'il n'y ait pas de disparité. En plus de cela, il faut effectivement mettre un écart maximum entre le politique, le mieux payé, et le fonctionnaire pour qu'il n'y ait pas cette grande disparité de salaire de 1 à 100 ou de 1 à 5. Ce n'est pas tout à fait normal. Ici, il y a ce problème, mais il y a aussi un autre problème qui doit être dit ici. Le politique est généralement condamné. Moi, je ne suis pas là pour défendre tous les politiciens. Mais il faudrait aussi, de l'autre côté, éduquer notre population. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez ce que dépense un homme politique au Congo? Lorsque vous êtes élu député, un député, mais lorsqu'il y a un deuil dans votre circonscription électorale, on attend de vous de participer. Lorsqu'il y a un pont cassé, on attend du député. Lorsqu'il y a un enfant malade dans une maison, on attend du député. Donc, c'est-à-dire, le député, la conception même qu'on a de l'homme politique au Congo est une conception qui doit être complètement changée. On ne conçoit pas l'homme politique comme l'homme qui parle ou qui intervient et qui résout les problèmes institutionnels. Non, on conçoit l'homme politique congolais comme un homme qui résout les problèmes personnels. Et dès lors que vous n'êtes plus capable, vous n'êtes plus en mesure de résoudre le problème personnel de votre électorat, eh bien, votre électorat risque de ne plus vous supporter. Et ça a des conséquences graves, parce que vous allez vous retrouver que le politicien lui-même se retrouve être constamment à la recherche d'argent. Parce qu'un homme politique, je vous dis, et j'en suis témoin, un homme politique ne dépense pas moins de 200 dollars par jour. Par jour seulement, parce que s'il fait un jour, il n'a pas dépensé les 200 dollars. En tout cas, avant la fin de la semaine, il va en dépenser 500. Parce que on intervient tous les jours. Parce que ce qui fait tout ça aussi, c'est le fait que la situation sociale de la population est très mauvaise. Et ils n'ont pas d'autre recours que les gens qu'ils ont élus. Si nous faisons un effort pour élever la situation sociale de nos compatriotes, en ce moment-là, je crois que même ces demandes individuelles vont diminuer. Je crois que il faut prendre le juste milieu entre tous ces éléments-là.
Monsieur Christian Mwando, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition, membre de la grande famille politique Ensemble pour le changement. Je vous remercie pour ce temps que vous nous avez accordé.
Merci.
Fin de grande interview sur Radio Okapi. Cette émission vous a été préparée avec le concours de Kelly Kouté sous la supervision de Pele Kipela Mondo. Michel Kifindangoy vous l'a préparée et présentée. Rendez-vous pour un nouveau numéro à la fréquence de la paix Radio Okapi, samedi prochain, 10h05. Merci et au revoir.